Allez, on marche encore une petite heure.
Ouais, tout le monde, on est prêts.
Allez, zou.
Qui n'a jamais éprouvé, à peine rentré de voyage, une furieuse envie de repartir aussitôt, comme l'impression que la vraie vie, celle où l'on s'épanouit, où l'on est soi-même, n'est pas celle que l'on passe enfermé dans son quotidien, englué dans sa routine. Passer sa vie à voyager. Certains ont trouvé le moyen de faire ce que, de ce rêve, une réalité. Une nouvelle génération de voyageurs a émergé sur leurs blogs, sur les réseaux sociaux. Ils postent articles, photos et vidéos pour raconter leurs aventures, leurs découvertes, leurs rencontres. Certains d'entre eux sont suivis par des dizaines, voire des centaines de milliers d'internautes. Alors les professionnels du tourisme leur font les yeux doux, leur proposent des voyages, tout frais payés, pour qu'ils mettent en avant leur destination. Ainsi, pour eux, la machine à voyager s'est enclenchée. Ils sont lancés dans une sorte de voyage perpétuel. De loin, ça fait rêver. Mais quel est réellement le quotidien de ces blogs trotteurs? Le voyage reste-t-il aussi plaisant quand il devient un métier? C'est ce que nous allons voir avec trois représentants de cette communauté de voyageurs 2.0. Autour de la table, Camille Maleroni, qui tient le blog de voyage L'Oiseau Bleu, et Claudia Hénonin et Clément Lepape, Chloé Clem pour ceux qui les suivent sur leur blog Un Tour sur Terre. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons comme tous les lundis nos deux explorateurs des cuisines du monde, eux aussi très présents sur internet et les réseaux sociaux, Marine Mandrila et Louis Martin. Ils nous emmèneront aujourd'hui manger en Jordanie.
Coucou les oiseaux voyageurs, alors je suis bien arrivée à Sancerre et là on se prépare pour faire une petite randonnée. Enfin petite, 2h, 2h30. Ils voient vraiment tout ce qui se passe en direct, même les petites galères, voilà, ils voient tout et c'est ça, c'est le côté sympa. Ça permet d'être plus proche d'eux aussi, on interagit en direct avec eux, ils voyagent avec nous tout simplement. On peut faire une photo sympa là, entre les arbres.
Stop.
Attends, je regarde le résultat.
C'est un peu trop blanc en fait encore.
Alors attends, je vais changer le réglage. Attention, il y a une voiture. Ouais, c'est mieux de loin en fait.
Ouais.
Tu vois, là, j'étais trop près. Là, c'est super joli, avec la perspective et les arbres de chaque côté.
C'est elle qui valide, finalement, oui, à la fin. Elle me donne un peu de directive et après, je prends la photo. Mais effectivement, c'est elle qui prend...
Tu peux le dire, hein. C'est dur d'être le mari d'une blogueuse voyageuse.
Camille Maleroni, dans vos œuvres, en train de vous faire photographier, en train de voyager avec votre compagnon pour votre blog. Je l'ai appelé à tort l'oiseau bleu, c'est l'oiseau rose, hein, évidemment.
C'est
je
ça.
Ne sais pas pourquoi j'ai dit bleu. Vous faites partie donc de ces blogueurs voyageurs, blogueuses voyageuses. C'est une activité que vous inventez en fait au fur et à mesure, parce qu'elle est toute récente, hein, cette activité de blogueuse voyageuse. Aujourd'hui, vous considérez que c'est vraiment un métier?
Oui, je peux considérer que c'est un métier à part entière à partir du moment où j'arrive à en vivre maintenant, depuis environ 2 ans et demi, 3 ans, je dirais. Moi, mon blog, je l'ai créé il y a 4-5 ans déjà. Mm-hmm. Donc vraiment, j'avais pas du tout imaginé ce qu'il allait devenir. Enfin voilà, c'était plus une passion de base de partager mes voyages avec des lecteurs, de montrer mes photos, enfin ce genre de choses. Mm-hmm. Après, je sais qu'il y a beaucoup de blogueurs qui disent qu'ils ont créé un blog pour partager avec leur famille, leurs amis ou des choses comme ça. Moi, je sais que c'était pas du tout le cas.
Ouais.
J'avais vraiment plus envie de partager ma passion, on va dire, du voyage. Et petit à petit, des offices du tourisme, des agences de voyage, etc. se sont intéressés à mon blog, ce qui fait que maintenant, c'est devenu mon métier.
Votre métier, Claudia Hénonin et Clément Lepape, comment vous définissez votre activité quand des gens vous rencontrent et vous demandent qu'est-ce que vous faites dans la vie? Claudia Hénonin.
Alors nous, on dit qu'on a un blog de voyage et on réalise des vidéos. Donc on se définit vraiment sous les deux étiquettes, donc à la fois réalisateur de contenu et à la fois du coup comme blogueur.
Ouais. C'est en 2012 hein, que ça vous a pris, cette envie de tout plaquer et de partir en voyage, Clément.
Oui, en fait, c'était pendant notre voyage de noces, c'était au Népal, et en fait, donc moi j'avais un CDI et Claudia faisait ses études, on était mariés, on avait acheté notre appartement, enfin la vie normale roulait.
Oui, tout partait pour être assez classique finalement.
Voilà.
Hein.
Et en fait, moi j'avais beaucoup de mal à trouver le sommeil, et c'est là que je me suis rendu compte que moi j'étais pas heureux dans mon travail, et qu'on a commencé à parler et à se dire que on avait beaucoup de rêves de voyage, de faire des vidéos, mais qu'on n'allait pas du tout vers là et qu'on allait vers quelque chose de plaisant, parce qu'on gagnait bien notre vie et tout, mais qui n'était pas la vie qu'on souhaitait faire.
Mmh. L'impression de passer à côté de vos rêves et de votre vie, Claudia.
Totalement.
Ouais. Et alors, pendant ce voyage de noces au Népal, c'est le déclic. Vous vous dites, on revient et après, rien ne sera plus jamais comme avant, on va voyager.
Oui, effectivement, en fait, on est... partie en voyage de noces en 2012, du coup en septembre 2012 au Népal. On est parti longtemps, on est parti quand même 3 semaines, donc pour la plupart des gens, bah, c'est quand même de grandes vacances. Mais au bout de 3 semaines, on s'est dit, ben mince, on rentre déjà, mais on n'a pas réellement eu le temps de connaître le Népal, de vraiment visiter le pays. On est juste resté sur une impression d'avoir juste visité comme des touristes, mais pas réellement de connaître le pays. Mmh. Tous les deux, en fait, on a habité à l'étranger et on sait la différence de juste visiter un pays en tant que touriste ou quand on habite dedans, quand on habite dans le pays. Et bah, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah non, nous, ce qu'on aime, c'est réellement découvrir les pays tels qu'ils sont et non pas juste en tant que touriste.
Et donc, quand vous revenez de ce voyage, alors je ne sais pas si c'est immédiatement après, mais quand même assez rapidement après, vous allez vendre toutes vos affaires, votre appartement, et allez hop, on largue les amarres. C'est quoi le projet là? Vous partez pour un grand voyage de combien de temps, Clément?
En fait, quand on part, on décide jamais du temps qu'on... Parce que généralement, au départ, on donnait des dates. Et puis, au bout de 3 mois de voyage, on avait déjà 2 mois de retard. Donc, c'était n'importe quoi. Donc, maintenant, quand on part, on a un objectif. Là, ce qu'on aimerait bien, c'est partir parce qu'on a un van et on vit en van. On aimerait bien partir jusqu'au Japon.
Oui. Alors, vous grillez toutes les étapes. Moi, j'étais vous sortez du Népal de votre voyage de noces. Et là, vous partez pour un grand tour du monde.
Ah oui. Après le voyage de noces, en fait, du coup, oui, on a tout plaqué parce qu'on s'est dit, si on le fait qu'à moitié, on va pas le faire. Du coup, on a tout vendu et on s'est dit, on part pour 3 ans. Et on essaye de faire un tour du monde sans avion. Donc, c'était l'idée de base. Et du coup, on a pris un train pendant 60 heures pour aller jusqu'en Turquie parce qu'on voulait pas particulièrement visiter l'Europe à ce moment-là. Et on est parti comme ça, un peu sans réfléchir.
À ce moment-là, Claudia Hennonin, vous saviez que vous ne reviendriez pas à votre vie d'avant. C'était pas un break, c'était un changement définitif de manière de vivre.
Exactement. En fait, on était partis, on a tout quitté, on savait qu'on allait... En fait, pour rassurer notre famille, on a dit on revient dans 1 an, puis finalement c'était 2 ans, puis on leur a dit 3 ans. Et plus ça allait, et plus on prenait goût au voyage... Et plus on se rendait compte en fait que bah, c'était ça notre vie, voyager. Ouais. Et que la vie d'avant d'ailleurs, enfin, il y a quelques mois de ça, on a donné les dernières affaires qui nous restaient à Emmaüs. Et aujourd'hui, on n'a vraiment plus rien à côté. Voilà, c'est vraiment notre vie, voyager. Et à ce moment-là, au début, quand on était parti, on avait une idée vague. On savait que la vie qu'on quittait, c'était la vie qu'on ne voulait pas. Ouais. Mais on ne savait pas que celle qu'on commençait, c'était notre nouvelle vie.
Ouais. Vous ne saviez pas si ça allait vous plaire, il y avait une part d'inconnu. Camille Maleroni, pour vous, comment c'est venu cette envie de prendre la route?
Je pense que c'est venu après un gros voyage en Thaïlande que j'ai fait quand j'étais étudiante. En fait, on devait faire un stage pendant mes études pour valider mon master 1 en communication. Et je me souviens que le prof d'anglais en classe, à la fin du cours, il nous a dit « Écoutez, j'ai une annonce à vous faire, ceux qui cherchent un stage, si vous voulez, moi j'ai un ami en Thaïlande qui prend quelqu'un. » Et je sais pas pourquoi, ni l'une ni deux, j'ai levé le doigt et j'ai dit, bah, c'est pour moi, j'y vais, quoi. Mmh. Et là, du coup, je me suis retrouvée pendant 3 mois à l'autre bout du monde, mais vraiment à vivre uniquement avec des Thaïlandais. Et vraiment, limite un peu à la rude, je dirais, ouais. Avec le lit militaire, la nourriture vraiment super épicée matin et soir. Enfin, c'était une petite galère, mais j'ai adoré cette petite galère, en fait. Et quand je suis revenue, enfin, c'était fini, quoi. Je me suis dit, il faut que je reparte, il faut que je découvre un peu le monde qui nous entoure.
Donc, pour vous, ça a été ce stage de 3 mois, le déclic.
C'est ça, ouais.
Et alors, vous décidez rapidement de repartir. Votre projet, c'est d'aller où, de passer par quelles étapes?
Alors, en fait, mon projet, c'était de partir. Aller où, passer par quelles étapes, c'était pas tellement en fait. En fait, je me suis dit l'essentiel, c'est de tenir entre guillemets le plus longtemps. Donc, on va sélectionner des pays où le coût de la vie est pas trop cher. Mmh. Donc, ça se situe essentiellement en Asie, Asie du Sud-Est, quelques pays d'Amérique du Sud. Et on est parti sans date retour. On s'est dit que ça durerait à peu près 1 an, voilà, pour avoir quand même une limite de temps.
Quand vous dites on, c'est que vous étiez avec votre compagnon.
C'est ça, avec mon compagnon.
Il est pas, enfin d'ailleurs, il est en
régie. Il est dans la
régie. Il est pas loin, mais c'est vrai que sur le blog, vous vous mettez tout le temps en scène, vous seul. Lui, il est en coulisses.
C'est ça, c'est l'homme de l'ombre jusque-là. Il m'accompagne, il est toujours là, mais c'est l'homme de l'ombre.
Mais vous voyagez à deux, hein, quand même.
C'est ça.
Quand vous êtes parti, là, pour ce premier l'un et l'autre, parce que vos parcours sont assez proches, hein, finalement. Finalement, on s'en rend compte. Il y a une appréhension au moment où on part ou un sentiment de délivrance absolue? Claudia, je vous vois avec le grand sourire, j'ai déjà la réponse, mais allez-y.
Un sentiment de délivrance absolue. On partait, on ne connaissait rien du monde, mais on savait ce qu'on laissait et ce qu'on laissait ne nous plaisait pas. Donc forcément, on se sentait plus libre à partir.
Ouais. Camille?
Moi, je dirais que j'avais une petite appréhension quand même juste avant de partir pour savoir comment ça allait se passer concrètement sur le terrain. Mais l'envie emportait tout, quoi. Fallait y aller. Mm-hmm. Après, il y a aussi, il faut gérer un peu les questions des proches. C'est ça, je dirais, oui. Qui est pas très évident parce que quand on dit à sa famille, à tout le monde qu'on part en tour du monde, ben, on nous regarde avec des gros yeux. Mais pourquoi tu fais ça? T'as un salaire, t'as un copain. Enfin, oui. Faites un bébé et puis achetez une maison, quoi.
C'est ça.
En gros, c'est ça qu'on nous demande.
Oui.
Et là, c'était pas du tout le projet. Donc, ouais. C'est vrai que.
Clément, la famille aussi, on vous a regardé, comment ça a été pris? Quand vous avez annoncé à vos familles respectives, voilà, on prend la route et on ne sait pas pour combien de temps.
Ça a été compliqué. J'ai pas du tout une famille voyageuse, donc après voilà, j'avais déjà fait des voyages avant, donc ils avaient bien compris que c'était une passion. Mais dire qu'on part pour aussi longtemps et avec des idées un peu folles en tête, c'était compliqué à expliquer et compliqué à comprendre, même si en face ils étaient ouverts, mais c'est forcément.
J'imagine que vos amis étaient envieux et vous ont encouragé à le faire, et j'imagine que vos familles étaient très inquiètes et avaient envie que vous restiez. Est-ce que je me trompe?
Oui, c'est exactement ça.
Oui, c'est ça. En général, ça plaît plus aux potes qu'à la famille, ce genre de projet. Et l'idée de créer un blog, le blog qui va avec, comment c'est venu, Claudia?
Alors nous, quand on est parti en fait à la base pour le tour du monde, on avait pour idée de faire des vidéos et notamment faire des documentaires. Voilà. En plus des voyages, en fait, notre passion c'était les vidéos. Et nous fallait un moyen de nous faire connaître pour nos vidéos, c'est-à-dire que si jamais on envoie quelqu'un qui puisse voir nos vidéos sur un site. Donc on a créé le blog à la base pour partager nos vidéos. Et aussi pour écrire des articles à notre famille.
C'était plus pour garder le contact, justement, rassurer les familles, les amis, éventuellement les personnes que vous rencontriez sur votre chemin.
En fait, on n'avait pas du tout idée de ce qu'était un blog, on n'en avait jamais eu avant.
Ouais.
Donc, à la limite, c'était plus un site qu'un blog. Et au fur et à mesure, on s'est pris au jeu d'écrire des articles. C'était pas du tout des articles pour pratiques, c'était vraiment, on expliquait notre voyage comme si on écrivait un livre. Et en fait, ça nous a plu, on a vu que ça commençait à prendre sur Internet, que les vidéos plaisaient, donc c'est devenu un jeu.
Un jeu avec une envie de faire quelques sketchs aussi. Des fois, vous vous mettez en scène, hein, ça ne manque pas d'humour. Alors là, on n'a que le son, on n'a pas l'image, mais on imagine. Là, par exemple, c'était en découvrant une chambre, disons, un peu spartiate.
Mais c'est quoi ce cachot? Ah, mais il y a des cafards partout! Il y a même un cadavre!
Ouais, mais c'est 1,50€ la nuit!
Ah, ben fallait le dire plus tard! Va leur dire qu'on reste 3 semaines!
Alors évidemment, avec l'image, c'est encore plus drôle parce que vous mettez tout ça en scène. Et petit à petit, sur Internet, non seulement vos amis, votre famille va regarder ça et va s'amuser de ça, mais aussi le grand public, des gens que vous ne connaissez pas, vont se mettre à avoir envie de vous suivre, à regarder vos aventures, jusqu'à ce qu'un jour, je crois que c'était déjà pendant ce premier grand voyage, on vous contacte. Des professionnels du tourisme remarquent votre blog et vous contactent. Vous vous souvenez du moment où vous étiez, la première fois que vous avez reçu un mail d'une agence de voyage, je crois, c'était?
Alors, en fait, on était en Inde à ce moment-là. Il y a Expedia qui nous contacte pour un jeu concours en nous disant « Mais inscrivez-vous !» Jusqu'au dernier jour pour envoyer la participation, on s'est dit « Mais non, enfin, pourquoi on devrait s'inscrire ? On comprend pas pourquoi nous ?» Et finalement, on s'est inscrit le dernier jour et on a été jusqu'en finale. On a perdu le concours, mais on a eu un contrat pour continuer notre tour du monde et faire 24 guides de voyage pour leur site internet.
Voilà comment s'enclenche de la passion. On passe déjà dans une activité rémunérée, un partenariat. On a aussi du coup un travail à rendre, hein, des choses. Le voyage change aussi un peu de forme. Vous, Camille, vous vous souvenez aussi la première fois où vous avez été contactée par des professionnels du tourisme suite à ce que vous postiez sur votre blog. Vous nous l'avez dit, hein, vous, c'était dès le début avec une volonté un peu professionnelle, pas uniquement pour s'adresser à la famille et aux amis.
Je dirais pas que c'était une volonté professionnelle dès le début, mais c'était plus une démarche pour aider les autres à faire comme moi, en fait. Ouais. J'aime bien un peu partager ma philosophie de vie, on va dire. Et vu que moi, j'avais réussi à me lancer dans ce tour du monde, bah, j'ai envie de montrer aux autres qu'ils pouvaient le faire aussi. C'était ouais. Plus dans ce sens-là. Et les premiers partenariats, ça a commencé à peu près au début du tour du monde, en fait, quand les agences ont vu que j'étais un peu partout. Mmh. Voilà, elles avaient envie que je parle des fois de leurs produits, de leur assurance voyage, ce genre de choses-là. Quoi. Mmh.
Et ça marche, hein, parce qu'aujourd'hui, plus de 40% des Français disent s'appuyer sur des blogs de voyage pour préparer leurs vacances. Donc on comprend évidemment que vous intéressiez les agences de voyage. Vous allez nous raconter vos voyages, les coulisses de ce métier qui en fait rêver plus d'un, les bonheurs. bonheur, la liberté, les contraintes aussi qui vont avec. Camille Maleroni du blog L'Oiseau Rose et Claudia Hennonin et Clément Le Pape du blog Un Tour sur Terre sont avec nous le temps d'un bivouac sur France Inter. Libération terrible, c'était Petit Fantôme sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Au moment du départ, alors que le train s'éloignait et que les paysages défilaient autour de nous, nous ne savions pas encore à quel point cette aventure allait être forte.
Grandir, s'émerveiller devant le monde et ses habitants. Nous avons pris nos sacs à dos, notre caméra et une bonne dose d'insouciance, laissant derrière nous une vie monotone pour devenir des nomades.
Chloé Clem, dans leurs œuvres, Claudia Hennonin et Clément Le Pape, ici autour de la table. C'est un petit extrait d'une de vos vidéos postées sur YouTube, évoquant ce grand voyage dans lequel vous vous êtes lancé. Vous étiez parti pour 3 ans, un voyage lent. Vous vouliez que ça dure, voir le paysage, éprouver le paysage. Quand vous êtes parti pour ce grand voyage, vous nous l'aviez dit, vous aviez tout plaqué, vous aviez vendu votre appartement, vendu toutes vos affaires. Quelle était votre première étape? Comment ça s'est passé?
Notre première étape, c'était la Turquie. Et au départ, ça s'est passé assez bizarrement parce que on a été plutôt comme des touristes au départ. Et c'est au bout de 3 semaines qu'on s'est rendu compte que c'était n'importe quoi comme la façon dont on voyageait. On essayait de voir les monuments alors que c'est pas du tout pour la raison pour laquelle on était parti. Et c'est à partir du moment où on est arrivé à Ankara et qu'on a dû attendre une semaine pour le train qu'on a commencé à faire du couchsurfing et à rencontrer vraiment les Turcs et à rencontrer tous les habitants qu'on a croisés, que le voyage est devenu intéressant. Ouais.
Claudia Hennonin, l'idée maîtresse était prendre son temps, rencontrer les gens. C'est ça que vous étiez fixé?
Oui, exactement. En fait, on voulait pas faire un voyage bref. Voilà, juste venir dans un pays et visiter voilà les choses à voir et ensuite enchaîner sur un autre pays, etc. On voulait prendre le temps de réellement connaître le pays. Finalement, en fait, c'est ce qui nous avait manqué au Népal. Au Népal, on a fait nos visites et on est rentré. Et voilà, on voulait voyager d'une autre manière parce que finalement, le voyage, c'est plus que juste aller dans un pays et voir les monuments. C'est vraiment apprendre la culture, rencontrer des gens, etc.
Et vous êtes passé par la Chine, le Tibet, l'Asie centrale, l'ouest de la Chine, le Népal, vous y êtes retourné hein, au Népal. Vous aviez plus profité la deuxième fois lors de ce grand voyage du Népal?
En fait, on y est passé assez brièvement parce que notre but, c'était d'arriver en Inde assez rapidement. Et comme on avait déjà 3 à 4 mois de retard sur notre planning et qu'on était, on voulait tourner un documentaire en Inde, en fait, du coup, on est passé, oui, très rapidement.
Ouais. Ah, quand même, vous aviez quand même des impératifs de temps. C'était pas à ce point la liberté. Et vous, Camille Maleroni, quelles ont été les étapes de votre premier grand voyage que vous vous êtes fixé après? Vous nous avez dit, hein, on est parti en Thaïlande, 3 mois, ça m'a marqué. Et ouais, à partir de là, j'ai décidé de faire un grand voyage, moi aussi.
C'est ça. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a essayé de sélectionner des pays où le coût de la vie était assez bas. Et on avait remarqué que le visa, l'obtention du visa pour l'Inde était un petit peu compliquée. Donc, c'est par l'Inde qu'on a commencé en tout premier. Et c'est vrai que c'est un pays où tout le monde nous dit qu'il faut faire attention. Enfin, c'est assez mal vu, ça a mauvaise presse. Mais on s'est dit finalement c'est bien, on sera dans le bain tout de suite, on plonge en Inde et c'est tant mieux quoi. Mmh. Et après à partir de l'Inde, on est parti nous aussi au Népal. Et après on a fait beaucoup l'Asie du Sud-Est, donc on passait d'un pays à l'autre essentiellement en bus pour que ce soit le moins cher possible. Donc Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, tout ça, mmh, on l'a fait en bus. Et Steven est cambodgien en fait, donc c'est vrai que c'est forcément une étape incontournable dans
c'est votre voyage. Compagnon, on l'a compris, Steven,
oui,
qui est cambodgien. Claudia Hennonin et Clément Le Pape, je crois que c'est en Iran que vous avez fait une de vos plus belle rencontre lors de ce voyage. Vous êtes resté une semaine dans une famille assez traditionnelle avec laquelle vous avez beaucoup échangé. Comment vous les avez rencontrés ?
Via Couchsurfing, donc juste après notre séjour en Couchsurfing. Du coup, Couchsurfing, en fait, c'est le principe, on va dormir chez les habitants et on découvre le pays enfin directement de l'intérieur, en fait. Et on avait eu notre première expérience à Ankara. Et après, on a pris le train et on a été dans une autre famille en arrivant en Iran. Et ça a été notre premier contact avec l'Iran. Mmh. Donc, premier contact assez froid au départ parce que bah moi, j'arrive, la Française qui fait la bise. Et en fait, c'était un homme en face. Et il a tout de suite mis une distance en disant non, ici, tu es en Iran. Mmh. Et du coup, il n'y a pas de contact physique comme ça entre les hommes et les femmes. Et ça, au départ, on avait peur. Du coup, on se dit, bah mince, c'est quoi ce pays, etc. Et finalement, ça a été génial. Enfin, mm-hmm, on a rencontré vraiment la culture iranienne de l'intérieur. Mm-hmm.
Ouais. C'est-à-dire que vous aviez aussi des a priori, vous attendiez à quelque chose de peut-être fermé comme pays. Et finalement, vous avez rencontré, même si le régime est assez dur en Iran, vous avez rencontré des gens qui vivent là-bas, qui eux se sont montrés très ouverts et avec qui vous avez beaucoup sympathisé. Vous avez profité d'une hospitalité légendaire, celle des Iraniens.
En fait, on a rencontré des gens très proches de nous, bizarrement, alors qu'ils sont quand même très éloignés dans la culture et même dans leur régime. Et des gens qui sont très ouverts. Et en fait, le fait qu'ils soient enfermés et qu'ils aient peu accès à l'extérieur, ils étaient très en demande d'informations sur l'extérieur, des informations véridiques sur l'extérieur. Et du coup, oui, on était partout accueillis comme des amis, littéralement, parce que tout le monde était content de voir qu'on s'intéressait au pays aussi, qu'on venait pas en pensant que c'était les méchants. Donc pendant 3 semaines, un peu plus de 3 semaines en Iran, on a été accueillis partout et les gens se battaient presque pour nous accueillir.
Camille Maleroni, vous c'est en Inde, je crois que vous avez eu une expérience comme ça où vous avez vécu pendant plusieurs jours dans une famille dont l'hospitalité vous a énormément touché.
Oui, c'est ça. En fait, c'était une rencontre qui s'est faite totalement par hasard. On s'ennuyait presque en fait, et on se trimballait et on a vu une jeune femme indienne de loin et je l'ai regardée, elle m'a fait un petit signe pour m'inviter à venir vers elle. Et au début, on était un peu réticents, on dit qu'est-ce qu'elle veut, parce qu'évidemment, l'Inde, on se dit on va nous voler, enfin ce genre de choses et tout, et on est des fois un petit peu fermé face à ça. Mmh. Et moi, j'ai dit non, viens, on y va, on va voir ce qu'elle veut et tout. Et puis, je sais pas, son sourire, la façon dont elle me regardait, je sentais que je devais y aller, quoi. Et on arrive donc, et là, enfin, elle nous a carrément intégré à sa famille, on va dire. Elle nous a présenté son beau-frère, sa grand-mère, sa petite-fille qui s'appelait Poukou, avec qui on a joué toute l'après-midi. Enfin, c'était génial. Ils nous ont montré leur champ de coton, la façon dont ils vivaient. Cette femme, elle m'a appris à faire des chapatis avec elle. Enfin, vraiment tout un univers que j'ai découvert. J'avais vraiment l'impression d'être un peu comme dans l'émission Retour en Terre Inconnue, quoi. Enfin, vraiment, pendant tout ce temps-là, on était intégrés à la famille, quoi.
Claudia Hennonin et Clément Le Pape, vous aviez aussi fait le choix de passer par l'Inde. Vous aviez dit, on voulait tourner un documentaire. Et vous aviez ça en tête. C'est la BO du film Devdas, un grand classique des films de Bollywood. Vous aviez un petit peu ça derrière la tête. C'était là encore peut-être un cliché, une image, une idée reçue que vous aviez de l'Inde. C'était Bollywood. C'est ça que vous étiez parti chercher là-bas.
En fait, on s'est dit, pour rencontrer les gens, on va avoir une idée un peu folle, c'est de vouloir devenir des stars de Bollywood. Et en fait, le but, c'était d'arriver, d'avoir rien préparé et de vivre 3 mois à Bombay, de rester que à Bombay et de chercher un appartement, de chercher un travail, donc qui était star de Bollywood, c'est pas évident.
Mais... Oui, c'est ça, vous aviez tapé haut.
Et ça, c'est ce qui nous a permis en fait d'aller vers les gens, d'être obligé d'aller vers les gens pour atteindre cet objectif. Et c'est comme ça qu'on a fait plein de belles rencontres et que ça a été vraiment un beau moment. Mmh.
Mais je crois que l'Inde, vous avez été un peu déçu aussi. Vous avez finalement quitté ce pays assez rapidement parce que le voyage, ce n'est pas que des bons moments, que des belles rencontres. Comme le disait Bouvier, un voyage on le fait ou il nous défait. Et en Inde, vous avez été un peu défait par le voyage à un moment. Claudia ?
Du coup, juste pour rebondir sur nos raisons pour lesquelles on était en Inde, on voulait faire un documentaire donc qui s'appelle Tout plaquer, partir vivre au bout du monde, toujours dans cette idée en fait qui nous a poussé à partir pour découvrir la véritable vie sur place. Et du coup, le premier épisode, c'est aussi ça, le temps en fait, qu'on avait en Inde. On voulait montrer en fait la vie réelle en Inde et non pas juste le Taj Mahal, le Rajasthan, etc. Voilà, montrer l'Inde de l'intérieur. Donc c'était l'objectif du documentaire.
Et du coup, la vie réelle en Inde, c'est aussi des galères.
Oui, c'est ça, parce que là, elle répond pas du tout à ma question. Hein. Soit elle l'a pas écoutée, soit elle a pas envie de raconter, mais elle est complètement à côté.
Non, mais en fait, ouais, l'Inde, c'est à la fois merveilleux et horrible. C'est tout à la fois. Et du coup, on a eu des très belles expériences, mais on s'est aussi fait racketter par des flics à Bombay. On a essayé de nous racketter parce qu'on s'est pas battu, mais on s'est pas laissé faire. Et en fait, après, on a dû à un moment aller à Londres pour Expedia pour les rencontrer. Et après, on est revenu pour repartir de l'Inde pour commencer notre voyage. Et là, on sait pas ce qui s'est passé, mais pendant une semaine, on a eu que des galères. Galère sur galère, notamment un accident de bus, une tentative de vol.
Un attentat.
Heureusement qu'on a eu l'accident de bus parce que sinon on serait arrivé à la station de bus où il y a eu un attentat au moment où il y a eu l'attentat. Donc fait, pendant une semaine, on s'est dit allez, on continue. Et c'est au moment où quelqu'un a essayé de nous voler qu'on s'est dit qu'on n'était plus du tout dans les conditions pour vivre le voyage qu'on voulait parce qu'on commençait à ne plus faire confiance à personne. Mmh. Et là, c'était fini, on pouvait plus voyager.
Ouais, c'est ça, à un moment donné, on ne se sent plus bien dans un pays, ça sert à rien d'insister. Il faut avoir la confiance pour aller à la rencontre des autres, à la rencontre d'un pays. C'est intéressant de vous faire échanger autour de ce pays-là parce qu'on se rend compte à quel point ce sont des voyages subjectifs, des témoignages et des expériences qui vous sont propres, qui vous sont arrivées à vous. Mais vous, Camille, vous nous dites, l'Inde, c'est une de mes plus belles rencontres. J'ai vécu formidablement bien dans une famille qui m'a accueilli merveilleusement. Et puis vous, finalement, vous alliez chercher les paillettes en Inde et vous avez trouvé autre chose. Donc, cette subjectivité, vous la revendiquez sur vos blogs. Évidemment, vous n'êtes pas un guide exhaustif, complet. C'est vraiment votre expérience à vous, faite de rencontres uniques. Vous êtes d'accord avec ça, Camille ?
Oui, le but, c'est pas de copier les guides de voyage classiques pour dire aller dans tel ou tel ou tel endroit. Le but, c'est vraiment de donner notre ressenti personnel face à un pays, à une destination, et que les lecteurs peuvent aussi s'identifier à nous. Souvent, enfin, ce que je dis, c'est que les lecteurs qui nous lisent, ce sont des gens qui nous ressemblent et qui ont un peu la même manière de voyager que nous. Donc forcément, ils vont être plus attentifs à ce qu'on va leur dire et ils vont se faire après, eux, tout seuls, leur propre opinion en allant voyager. L'idée, c'est juste de donner envie, en fait.
De donner envie, de donner quelques conseils aussi, hein, parce que ce grand voyage, Chloé Clem, ça a été un peu votre baptême du feu. Et aujourd'hui, vous pouvez donner, vous aussi, des conseils, parce que vous êtes passé par là.
Comment fait-on pour financer un tour du monde ?
Alors, vous pouvez braquer une banque, arnaquer votre grand-mère ou revendre votre petite sœur sur eBay. En fait, il n'y a pas une solution miracle, il y en a 4.
Alors plus sérieusement, c'est quoi les 4 solutions possibles pour les auditeurs qui nous écoutent et qui auraient eux aussi envie de se lancer dans un grand tour du monde ? Clément ?
Je me souviens plus. Non, si, il y a beaucoup de façons de voyager. Nous, en fait, on essayait d'expliquer donc comment voyager pas cher. Donc, on expliquait que pour se déplacer, il y a le stop, tout simplement, tout bêtement. Pour dormir, il y a le couchsurfing. Et pour, par exemple, pour visiter ou pour faire des activités, il y a des sites comme Helpix qui permettent, en fait, contre un petit peu de travail, de par exemple, on a rencontré quelqu'un qui, pendant une semaine, a fait du kitesurf gratuitement parce qu'elle aidait 4 heures par jour au bar.
Vous avez beaucoup de messages d'internautes, par exemple, Camille, vous qui dites, vous aussi, hein, votre blog a pour principal but de conseiller, de donner vraiment des conseils très pratiques à ceux qui souhaitent voyager dans les mêmes endroits que vous. Vous avez beaucoup de messages directs, vous répondez à tous les internautes qui vous sollicitent ?
Oui, je reçois des mails tous les jours de questions bien précises sur comment voyager dans tel ou tel pays ou comment économiser, comment convaincre ses proches. Enfin, plein de questions que les gens se posent avant de partir pour un long voyage. Donc j'y réponds déjà dans pas mal d'articles, mais c'est vrai qu'ils ont besoin un peu d'un soutien, d'une aide derrière, de préciser les choses, quoi.
Bon, c'est un vrai travail à temps plein s'il faut répondre à...
Parce que
vous avez énormément de followers. Il y a 100 000 personnes qui se connectent sur votre blog par mois, crois. Si tout le monde vous pose des questions, vous devez crouler sous les messages.
En fait, on n'arrête jamais, c'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment une passion avant d'être un métier, je dirais. Parce que si on fait ça pour gagner de l'argent, enfin... Le ratio heure-gain, c'est zéro, quoi, je veux dire.
Alors, ce que l'on vient de raconter, ce sont quelques exemples d'expériences lors de votre premier grand voyage, de vos premiers grands voyages. On l'entend, vous y avez pris goût, vous aimez partir à l'aventure, vers l'inconnu, vous aimez et savez faire face à l'imprévu. Mais vous aimez tellement ça que pour pouvoir continuer, repartir sans cesse et alimenter la machine, vous tenez vos blogs sur Internet, votre page Facebook, Instagram, Snapchat, etc. et répondre à tous les internautes. Et avec tout ça, on se demande, le voyage reste-t-il toujours aussi plaisant? Garde-t-il toute sa saveur? C'est ce que vous allez nous dire dans un instant. Vous allez nous raconter les coulisses du métier de blog trotteur. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac sur France Inter.
Agua corre sobre a pedra, fio que descarrega. Ouro nem sempre dura a pele. Luz nem sempre é veloz. Todo verde é transparente e treme ao vento. O dia alto e bate palma. Cai a noite e esconde a voz. O seu pai era bandido, mas você apareceu. Seu pai era bandido, mas você apareceu. Nunca é um dia uma vez, nunca mais uma coisa só. Nunca é um dia uma vez, nunca mais uma coisa só. Nunca é um dia uma vez. Mais uma coisa só. Água corre sobre a pedra, fio que descarrega. O ouro nem sempre doura a pele. A luz nem sempre é veloz. Tudo verde é transparente e treme ao vento. O dia é alto e bate palma. Cai a noite e esconde a voz. O seu pai era bandido, mas você apareceu. Seu pai era bandido, mas você apareceu. Nunca é um de uma vez, nunca mais uma coisa só. Nunca é um de uma vez, nunca mais uma coisa só. Nunca é um de uma vez. Nunca mais uma coisa só. Nunca é um de uma vez. Nunca mais uma coisa só.
C'est ou pas, c'était Arto Lindsay sur France Inter, Le Temps d'un Bivouac.
Ouais, ça revient sur nous.
Oh, elle est énorme. En fait, la baleine bleue, c'est le plus grand mammifère au monde. Donc ça peut mesurer jusqu'à 25 mètres et peser 12 tonnes.
et il en existe que 250 en Amérique du Nord, et du coup on a vraiment eu de la chance aujourd'hui, sachant que hier c'était la première fois qu'ils envoyaient de la saison, donc on a été très chanceux.
Normalement on ne doit pas s'approcher à plus de 400 mètres, sauf si c'est elle qui vient vers nous. On avait les moteurs coupés et elle est arrivée directement vers nous, et on l'a vu à moins de 50 mètres, et apparemment c'est hyper rare. Et maintenant on joue à cache-cache avec elle, parce qu'elle est partie plus loin, on la voit remonter, replonger, remonter, replonger.
Extrait d'une vidéo postée par vous, Chloé Clem, ou Claudia Hénonin et Clément Le Pape, quand on va avoir le nom en entier. C'est le genre d'expérience que vous partagez donc avec vos internautes, en l'occurrence. Là, c'est un bon souvenir, j'imagine, ces baleines que vous avez observées de près, Clément.
Oui, c'est un excellent souvenir. En plus, c'est assez récent. C'était il y a un peu plus d'une semaine. Et c'est un excellent souvenir parce qu'on s'y attendait pas du tout. On nous avait dit qu'il y avait pas de baleines en ce moment, que c'était une très mauvaise saison. Et on arrive, au bout de 5 minutes, il y a une baleine bleue qui fonce sur nous. Donc forcément, c'est un beau souvenir.
Camille Maleroni, vous, je crois que c'est des requins baleines que vous avez observés aux Philippines.
C'est ça, aux Philippines, ouais. Ouais. On les a même plus qu'observés. On a nagé à quelques mètres d'eux, donc c'est vraiment impressionnant. Je me souviens, quand j'étais dans l'eau, je l'ai vu, j'ai eu le fou rire dans l'eau. C'était la première fois que je rigolais au fond de l'eau.
Parce que ça a une tronche marrante.
Ah ouais, ça a vraiment une tronche marrante, ça a une tête aplatie, longue et plate. Enfin, c'est très rigolo. Ouais. Ouais.
C'est les plus gros requins qui soient, hein, les requins baleines.
Après, ça ressemble pas à un requin, hein. Ouais. C'est plus mignon que ça. Hein.
Ouais. Mais c'est quand même un vrai requin, mais il se nourrit que de plancton. Vous
voilà,
risquez rien
ça.
Du tout. Et ce genre de récit de voyage, forcément, ça fait rêver les internautes qui vous suivent, hein, sur les réseaux sociaux. Et forcément, la question qu'on finit par vous poser, c'est comment faites-vous pour voyager autant? Rassurez-vous, cette question, on la pose à tous les blogueurs de voyage.
Bonjour internaute, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la question qu'on me pose tout le temps. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment je fais pour gagner ma vie et voyager tout le temps. Alors déjà, avant de savoir comment je gagne de l'argent, l'idée c'est de savoir aussi comment j'en dépense pas. Déjà, j'ai pas de loyer en France, j'ai pas non plus de voiture, donc pas d'essence et pas d'assurance à payer, qui laisse quand même beaucoup plus d'argent à la fin du mois sur le compte. Mais surtout, je vais souvent voyager dans des pays où le niveau de vie est vraiment inférieur par rapport à la France. Du coup, je peux vivre avec 800-900 euros. En gros, je dors pour 10 euros par nuit. Je vais manger par repas pour 2, 3, 4 euros maximum. Donc forcément, j'ai pas besoin des mêmes revenus qu'en France. Et puis quand je suis de passage à Paris, je suis hébergé par des amis. D'ailleurs, ils se reconnaîtront, merci les gars. Et ce que je fais aussi, c'est que quand j'ai beaucoup voyagé ou quand j'ai pas mal bougé, c'est là où je dépense le plus, puisque tu payes les billets d'avion, les bus, etc. En général, je me cale une ou deux semaines, voire un mois quelque part, pour limiter les frais. Et du coup, je te dis, avec 800-900 euros, je m'en sors très bien.
C'était Alex Viseo, un autre blogueur voyageur influent que vous connaissez, parce qu'en fait c'est un petit monde ces blogueurs voyageurs et vous vous connaissez tous les uns les autres. Claudia Hénonin, vous vous reconnaissez dans le mode de vie qu'il était en train de décrire là, sa façon de finalement dépenser relativement peu en voyageant beaucoup?
Oui, d'ailleurs, c'est très drôle. Je vais rebondir sur ce que Clément a dit au début. On n'a plus d'appartement aujourd'hui, donc on paye plus de loyer. On vit dans un van, donc effectivement, c'est la vie au quotidien, mais c'est beaucoup moins cher.
Oui, c'est une sorte de camping-car, hein, ce van.
Voilà, exactement, c'est aménagé.
Que vous avez aménagé pour vivre dedans. Donc vous êtes de plus en plus nomade, finalement. Vous aussi, elle vous va, cette description de la vie d'Alex Viseo, du blogueur voyageur,
oui,
Camille?
C'est tout à fait ça. Dès qu'on voyage dans des pays comme ça, on dépense rien du tout, quoi. Enfin, encore, quand il dit 10 euros la nuit, c'est même 3 euros. Enfin, parfois, c'est vraiment facile de voyager pas cher.
Alors ça nous dit comment on dépense peu. Mais quand même, il faut gagner un peu pour pouvoir dépenser ce peu d'argent. Alors, comment vous gagnez votre vie? Est-ce que vous avez gardé des activités professionnelles à côté ou est-ce que c'est avec vos blogs de voyage que vous réussissez à gagner de l'argent? Qui veut répondre?
Là, je crois pas que parmi nous trois, on a gardé de travail à côté. Ah si, peut-être Claudia un petit peu. Enfin, moi, personnellement, c'est fini. Hein. Je vis que du blog voyage maintenant. Et c'est essentiellement des partenariats avec des offices du tourisme, des agences de voyage qui ont envie de mettre en avant certaines destinations.
Mmh. Claudia, vous avez gardé une activité?
Alors aujourd'hui, on pourrait très bien vivre tous les deux du blog. Par contre, j'ai gardé ça fait un an que je travaille en tant que community manager. Du coup, je travaille à distance.
Oui.
Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça nous permet d'avoir une sécurité, donc un salaire tous les mois et également la liberté de refuser si on veut un contrat parce qu'on a pas cette pression de l'argent.
Et oui, parce que ça, c'est évidemment la question qu'on se pose. Quand vous nous dites, finalement, pour financer ces voyages, ce sont les professionnels du tourisme, des agences de voyage, des offices du tourisme qui nous sollicitent, qui parfois nous rémunèrent. Du coup, on se dit, alors si on va regarder ces blogs pour chercher des conseils pour nos voyages, est-ce que ce sont des conseils sincères ou est-ce qu'en fait, on a acheté leur avis? Alors, vous répondez de la tête, mais vous allez répondre de la voix pour que les auditeurs puissent en profiter. Camille?
Forcément, forcément, j'ai envie de dire que les avis sont évidemment sincères, parce que déjà, dans une destination, on ne peut pas dire que tout est nul. Enfin, ça n'a pas de logique. Et ce qui se passe, c'est que quand on organise un voyage comme ça en partenariat, il y a tout un travail qui est fait en amont entre l'office et le blogueur pour établir un programme. Donc en fait, si je vais dans tel ou tel pays, je vais dire, moi j'ai envie de faire par exemple de la randonnée, voilà, des choses que j'aime moi, et donc forcément ça va me plaire une fois que je serai sur le terrain.
Et alors Claudia, si par exemple on vous a logé, nourri, transporté gratuitement, et puis qu'il y a quelque chose qui vous déplaît, est-ce que vous allez le dire ?
Oui, mais pour l'instant c'est jamais arrivé.
Oui, c'est vrai ?
Oui, c'est jamais arrivé parce que...
Parce qu'on s'organise bien avant, comme le disait Camille. C'est le but, c'est de faire des voyages qui nous ressemblent. Donc, on vérifie avant que c'est des choses qui peuvent nous plaire.
Oui, et en fait, on ne fait jamais aucun voyage que nous-mêmes, personnellement, on n'aurait jamais fait. Mm-hmm. Vraiment jamais aucun.
Il y a des choses qui ne plaisent pas, des fois. Ah. Moi, j'avoue, ça m'est déjà arrivé.
Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous... Merci pour cette franchise. Voilà. Alors,
ça arrive. Après, c'est pas sur tout le voyage. Ça va être des petites choses. Je sais pas, par exemple, un aquarium à Nouméa que j'avais fait, je le trouvais tellement nul que du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai parlé de Nouméa, je l'ai pas mentionné. Mmh. J'ai pas dit, il est nul, n'y allez pas, mais je l'ai pas conseillé. Je vais pas faire le top 10 des choses inutiles à faire dans un pays.
Vous avez attendu d'être en direct sur France Inter pour le dire.
Oui, j'assume complètement, il est vraiment nul.
Alors, on a quand même l'impression que pour rester dans le coup, il faut être toujours plus connecté avec une évolution très rapide, comme l'explique Bruno Maltor. Lui aussi tient un blog. Son blog s'intitule « Votre tour du monde ».
C'est vrai qu'en l'espace de 4 ans, c'est quand j'ai lancé mon blog voyage « Votre tour du monde », c'était en décembre 2012. On a l'impression que c'est peu, mais en réalité, c'est passé énormément de choses sur Internet avec l'arrivée de Snapchat, d'Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Donc c'est clair qu'il y a une vraie évolution dans le métier du blogueur, en tout cas dans l'activité du blogueur, qui devient, malheureusement, j'aime pas le terme « influenceur », parce qu'on ne peut pas limiter le terme « blogueur » à tout ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je partage mon quotidien, mon voyage « off » entre guillemets sur Snapchat. Je partage mes plus belles photos sur Instagram et je partage des vidéos sur YouTube et sur Facebook. Donc on voit que le blogueur, à la base, était un rédacteur et devient vraiment un couteau suisse en termes de réalisation et d'activité.
Bruno Maltor, donc blogueur, voyageur. On a l'impression, quand on l'écoute, que c'est une activité, mais ça prend un temps fou s'il faut aller sur tous ces réseaux sociaux. On a encore le temps de prendre le plaisir du voyage, Camille ?
Oui, parce que déjà, de base... On aime voyager et moi j'aime bloguer. En fait, bloguer, c'est aussi devenu une passion à part entière en plus du voyage. Quand je partage ça avec mes internautes, que j'ai des retours, qu'on voit qu'on crée une communauté, qu'on a des questions, qu'il y a un engouement, c'est vachement flatteur aussi de ce côté-là. Donc c'est pas une corvée, sinon on le ferait pas. Mmh. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage. En fait, c'est ça que j'aime dans le blogging, c'est que j'apprends toujours des nouvelles choses. On se perfectionne en photographie, donc en vidéo pour certains. Moi, je sais que dernièrement, par exemple, j'ai acheté un drone.
Oui.
Donc c'est toutes ces petites choses là qui se rajoute, qui fait que ça prend du sens.
Allez, en 10 secondes, vous voyez où dans 10 ans, Claudia ?
Aucune idée. Peut-être au bout du monde, peut-être... En fait, on a une vie tellement au jour le jour qu'on ne sait pas.
Camille ?
C'est dur, mais j'ai envie de tenter l'expatriation, je dirais.
D'accord. Donc, pas forcément en voyage, mais en tout cas à l'autre bout du monde quand même. Clément ?
Pareil que Claudia, du coup, j'ai aucune idée.
En tout cas, vous voyez ensemble et ça, c'est plutôt positif. Allez, je rappelle les titres de vos blogs. Camille Maleroni, L'Oiseau Rose. Claudia Hennonin et Clément Le Pape, Chloé Clem pour les intimes. Un tour sur Terre. Merci à tous les trois.
Merci.
Dans un instant, je vous emmène en Jordanie découvrir la cuisine locale avec Marine Mandrila et Louis Martin, nos deux explorateurs des cuisines du monde.
Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer. Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin,
vouloir plus fort encore demain. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer. Pour l'amour que l'on donne et qui s'abandonne, un mot que l'on pardonne, pour un rêve qui nous étonne, pour le goût retrouvé de la liberté, ouvrir les yeux sans se dire adieu, penser à rien, rêver un peu. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer. Partir un jour.
C'était Partir un jour, Catherine et ses peintre sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Tiens, qu'est-ce que c'est que ça?
Allez, soupe! Soupe!
Bonjour Louis Martin et Marine Mandrila.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nos explorateurs de la cuisine et vous allez aujourd'hui nous emmener en Jordanie. À quoi ressemble la cuisine jordanienne, Marine?
Alors la cuisine jordanienne, c'est une cuisine du Levant. Donc on retrouve des éléments communs à la Turquie, la Syrie, le Liban, l'Irak, mais aussi la Palestine et en fait tous les pays qui formaient l'Empire ottoman. Et en Jordanie, plus de 60% de la population est d'origine palestinienne. Et comme toutes les diasporas, ils ont emmené leur cuisine avec eux en Jordanie. Donc on retrouve des mezzés qu'on connaît, houmous, caviar d'aubergine, taboulé, feuilles de vigne, falafel, tout ce qu'on aime. Et c'est une cuisine vraiment généreuse, où il y a souvent sur la table beaucoup plus que nécessaire.
Oh là là, ça commence très très bien. Et il y a aussi une forte tradition bédouine en Jordanie, Louis.
Oui, exactement. On a appris que la Jordanie est à l'origine un pays peuplé de bédouins et qui habite encore dans des régions désertiques et montagneuses et même sur des sites historiques comme Petra. Il y a un code de l'honneur très important chez les bédouins, basé sur l'entraide et l'hospitalité. Et on nous a même expliqué que là-bas, les tentes n'avaient pas de porte et restaient ouvertes et qu'il n'y avait pas besoin de frapper du coup pour entrer dans une tente bédouine. Tout le monde est le bienvenu et notamment pour boire le thé.
Et vous avez pu goûter évidemment un petit peu à la cuisine bédouine. Qu'est-ce qu'on mange dans le désert, Marine?
Maintenant, beaucoup de bédouins sont sédentarisés. Ils ont plusieurs campements dans le désert en fonction des saisons, voire une petite maison à la ville. Et surtout, les 4x4 ont vraiment remplacé les dromadaires. Donc, plus de problèmes pour aller faire ses courses, transporter l'eau, etc. Et nous, on a eu la chance d'être accueillis dans le désert du Wadi Rum, qui est l'un des plus beaux déserts du monde, par Diwali et sa famille, avec qui on a passé quelques jours dans le camp. Et surtout, avec eux, on a appris à manger le mansaf, qui est vraiment le plat traditionnel jordanien, le plat bédouin par excellence, dont la première étape est donc évidemment de tuer le mouton.
Comment ça va?
Yeah, everything is fine. We just went to
On vient de faire la tournée des campements bédouins pour trouver le meilleur mouton.
Wow. Ah, okay.
Il est là-bas.
Ok, super. Ouais, les cow-boys du désert. Avec le sabre. Il faut voir l'estomac bien accroché. Oh putain, là, il est en train d'enlever la tête.
Et donc, Louis, vous avez participé à cette étape aussi.
Bien sûr, ce qu'on a pu observer surtout, c'est que c'est un véritable art, qu'il y a une vraie technique pour tuer le mouton. Et surtout que ça se fait de manière artisanale, mais dans le plus grand respect de l'animal et des traditions bédouines. C'est le père qui apprend à ses fils comment tuer le mouton dès le plus jeune âge. Et on se considère comme un adulte uniquement quand on maîtrise la technique. Bon, nous, on la maîtrise vraiment pas du tout encore, cette technique, mais on a bien suivi le reste de la recette. Et franchement, c'était très impressionnant.
Le mansaf.
Il y a
plusieurs façons.
Que le préparer.
Oui, c'est ça. Sometimes the... Plusieurs recettes. Les gens de la ville font cuire la viande dans le lait.
Alors que toi, tu ajoutes le lait à la fin.
Exactement. Mais ça, c'est une vraie recette.
Donc on fait cuire en fait le mouton découpé dans du yaourt de brebis avec plein d'épices. Et le yaourt en général a été déshydraté et devient des petites boules qu'on sèche au soleil pour qu'on puisse les conserver, qui s'appelle le jamid. Et surtout, en fait, le mansaf, on le mange selon un rituel très particulier. Et je crois que c'est aussi ce moment-là qui fait vraiment le charme du mansaf. En fait, on étale des fines galettes de pain sur un grand plateau. On arrose le pain de sauce au yaourt. Ensuite, on étale tout le riz dessus. Et par-dessus, on vient rajouter toute la viande et vraiment sur le dessus, le foie, la queue et la tête. Le tout, évidemment, bien arrosé encore de sauce. Mmh. Et en fait, on mange tous assis autour, avec sa main droite. Et je crois que ce moment-là, avec Diwali dans le désert, c'est l'un de nos plus beaux souvenirs de voyage.
Et vous nous avez apporté une autre recette qui vous a beaucoup plu aussi, hein, je crois.
Oui, en fait, c'est notre recette préférée et qui est plus facile à faire en France. C'est le fâté d'aubergine de Jessica. Alors pour le fâté, on prend 1 kg d'aubergine, de la viande hachée, de l'oignon, des pignons, du pain libanais, du yaourt, des pois chiches, de l'ail, du vinaigre, du tahiné qui est de la crème de sésame, de la menthe séchée, du piment en poudre, un peu de menthe, un peu de beurre et un peu d'huile. On commence par laver les aubergines, on les épluche et on les coupe en petits dés. On les saupoudre avec du sel pour les laisser dégorger pendant qu'on prépare le reste de la recette. On chauffe le beurre dans une poêle, on y met l'oignon finement haché et on les fait cuire 10 minutes en remuant un petit peu. On ajoute la viande hachée et on les fait bien cuire en ajoutant, en assaisonnant du sel, du poivre et un peu de vinaigre. On mélange le yaourt nature avec l'ail écrasé, le tahiné, la menthe séchée, le piment en poudre et le sel. Ensuite, on égoutte les dés d'aubergines qui ont rendu leur eau, on chauffe bien le bain de friture, on met à dorer les aubergines pendant 10 minutes, on les retire du feu. Ensuite, on coupe le pain en croûtons, on arrose l'huile d'olive et du sel, on met le pain au four pendant 15 minutes pour que ce soit bien bien croustillant. On fait dorer les petits pignons du pain sans huile, hein, juste comme ça à la poêle. On fait chauffer les pois chiches, on les égoutte et ensuite on met les pois chiches dans le plat. On ajoute le pain libanais, les aubergines frites, le yaourt et à la fin, la viande et les pignons de pain. On décore avec un petit peu de menthe et on se régale.
Je salive. Merci Marine Mandrila et Louis Martin. On va évidemment mettre la recette en lien sur la page Facebook parce que ça a été à toute allure, mais on a envie de la faire, cette recette que vous venez de nous donner. On va la mettre sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Et on vous retrouve lundi prochain. Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Et vous pouvez retrouver une vidéo sur ce périple culinaire sur le site Comptoir des Voyages.
Merci pour ce merveilleux spectacle.
La routine.
Demain à 16h, nous partirons à la découverte du monde des insectes et à 17h, nous prendrons en filature ceux que l'on appelle les espions. Nous verrons comment et pourquoi des agents clandestins de la DGSE partent en mission dans les régions les plus hostiles de la planète. À demain donc pour de nouvelles aventures.